Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come.
Bien le bonjour messieurs, dames et bienvenue chez Culturez-vous, l'émission de pop culture de Transistor. Dans les émissions précédentes, nous sommes partis à la rencontre de chanteurs, de peintres, de réalisateurs. On a aussi raconté les histoires de certains films, de séries et d'émissions. Et on a même parlé de courants musicaux. Mais aujourd'hui, et pour la première fois, Culturez-vous vous propose de découvrir l'histoire d'un phénomène. Ce phénomène, il est musical, médiatique, économique et même politique. Ce phénomène, il a 35 ans. Il nous vient de Pennsylvanie aux États-Unis et a déjà presque 20 ans de carrière derrière lui. Ce phénomène, il s'appelle Taylor Swift.
Please welcome Taylor Swift.
Taylor Swift.
Taylor Swift.
Chanteuse pop américaine, cette auteure, compositrice et interprète est aujourd'hui considérée comme l'une des personnalités les plus puissantes au monde. Élue par le magazine Times personnalité de l'année 2023, elle est la première artiste à être devenue milliardaire uniquement grâce à sa musique. Véritable tornade, elle explose littéralement tous les records. À ce jour, Taylor Swift, c'est 11 albums, plus de 18 ans de carrière, 26 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, plus de 280 millions de fans sur les réseaux sociaux, des centaines de millions de disques vendus à travers le monde, un florilège de récompenses et deux séismes déclenchés par ses fans lors de sa dernière tournée Eras Tour. Eras Tour qui a d'ailleurs dépassé les 2 milliards de dollars de bénéfices. À chaque tournée de la star, les pays se battent pour obtenir l'exclusivité de son passage et ainsi booster leur économie. Et oui, un concert de Taylor Swift, c'est l'assurance de brasser des millions. Hôtels, restaurants, transports, les fans de Taylor sont prêts à venir de loin et à dépenser gros pour leur idole. On les découvrira d'ailleurs un peu mieux grâce à Mona, membre de mon gang familial et Swiftie officiel, qui a accepté de répondre à mes questions sur le sujet. L'influence de Taylor Swift aujourd'hui est telle que ses prises de position ont même joué un rôle dans les dernières campagnes présidentielles américaines. Mais le paradoxe, c'est que si beaucoup connaissent son nom, certains n'ont pourtant jamais entendu une de ses chansons et connaissent encore moins son histoire. Mais ne vous inquiétez pas, Culturez-vous est là pour éclairer votre lanterne. Et oui, aujourd'hui, on se penche donc sur le phénomène Taylor Swift ou comment une jeune chanteuse de country a réussi à conquérir le monde et à faire trembler le président des États-Unis. Allez, c'est parti, on embarque tous dans l'univers extraordinaire et démesuré de Taylor Swift, la girl next door devenue popstar toute puissante. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. C'est le 13 décembre 1989 à Reading en Pennsylvanie que la petite Taylor Allison Swift voit le jour. La petite fille, accompagnée de son frère cadet, grandit dans une banlieue aisée avec des parents fervents catholiques. Tous les dimanches, la petite Taylor se rend à la messe avec ses parents et sa grand-mère, elle-même chanteuse. Marjorie Finlay est en effet une ancienne chanteuse d'opéra classique qui inspirera particulièrement sa petite fille. Taylor Swift lui dédiera même une chanson quelques années plus tard. Taylor est plutôt douée en classe, mais se prend très vite de passion pour la musique et le chant. Dès le plus jeune âge, son entourage la sait déterminée et particulièrement impliquée dans ce qu'elle fait. Guitare, ukulélé, piano, elle apprend très vite à jouer de nombreux instruments. La famille Swift déménage dans le Wyoming, l'adolescente continue elle de développer son amour pour la chanson et commence même à écrire ses premiers textes. À 11 ans à peine, elle chante déjà dans les foires, les festivals et les cafés de la région. Elle interprétera même l'hymne américain devant un stade de 20 000 personnes. À 14 ans, la jeune fille est bien décidée à provoquer son destin. Malgré son jeune âge, elle réussit à convaincre ses parents de déménager à Nashville, capitale de la musique country. Et oui, si on connaît aujourd'hui Taylor Swift en tant que star de la pop, c'est bien par la country que la chanteuse a débuté. Convaincue de son talent, elle fait le tour des maisons de disques. L'ado enchaîne les refus, mais ne lâche rien. Elle continue d'écrire et de se produire dans des salles de concert de la ville ou dans des bars. Comme dans ce bar de Nashville, où la jeune fille interprète l'un de ses premiers morceaux, Tim McGraw.
There's this radio station called KZLA. And I really wanted to play my song. More than you have any idea. So I want each and every one of you to call them up like 5 times a day and tell them you want to hear a song called Tim McGraw by this girl named Taylor Swift.
Et sa détermination va payer. Elle se fait repérer par le producteur Scott Borchetta et signe à 15 ans sur le label Big Machine Records. La jeune fille a du talent et correspond parfaitement aux critères de beauté associés à la country et surtout à son public. C'est une très belle blonde aux yeux bleus, filiforme et bien sous tout rapport. Un vrai stéréotype de la petite fiancée de l'Amérique. Et pour les amateurs de country qui sont pour la plupart branchés conservateurs et républicains, c'est une aubaine. Elle est jolie, gentille, lisse et ne fait pas de vagues. La petite Taylor suit les consignes et les codes établis par sa maison de disques et la société, et ça, ça marche. Elle gravit les échelons et se fait une place de choix au sein d'un style de musique particulièrement masculin. Et pour le coup, ce n'était vraiment pas gagné. Pour vous donner une idée du taux de machisme présent au sein de la musique de cow-boy, sachez que les radios country ont encore aujourd'hui pour consigne de ne pas enchaîner 2 chansons interprétées par une femme. Cela perturberait les auditeurs, à ce qu'il paraît.
La culture pop, c'est sur Transistor avec Culture et vous.
Mais malgré toute cette testostérone, la jeune Taylor Swift s'impose avec son propre style de country. Pour la première fois, cette musique s'adresse directement aux ados. Elle parle de ses problèmes du quotidien, de l'école, de l'amour, des relations avec les autres, et ça fonctionne. Je dirais même que ça cartonne. Nous sommes en 2006, Taylor Swift a 16 ans et arrive à se hisser en tête des classements de vente d'albums country. Mieux, elle arrive même à entrer dans le fameux classement Billboard. Pour les Américains, le magazine de musique Billboard est vraiment le repère de popularité des artistes. Toutes les semaines, il classe les titres et les albums les plus populaires au pays de l'Oncle Sam. Pour les musiciens, il est très difficile d'y entrer, encore plus d'accéder au sommet du classement et particulièrement rare d'y rester. Et dès son premier single, Tim McGraw, sorti sur son album éponyme en 2006, Taylor Swift entrera dans ce fameux classement. Et elle y restera tout au long de sa carrière avec la totalité de ses autres albums, explosant tous les records sur son passage à chaque nouvelle sortie. Quelques années plus tard, elle sera même officiellement nommée par le magazine meilleure artiste du 21e siècle.
the money. She thinks I left them in the will.
De retour sur Transistor, où vous écoutez toujours Culture et vous, qui vous parle aujourd'hui de la chanteuse devenue icône mondiale, Taylor Swift. Comme je le précisais en première partie d'émission, Taylor Swift, aujourd'hui méga star de la pop musique, était à la base une chanteuse tournée vers la country. Mais que ce soit dans la pop, la country ou même la folk, tous les albums de la chanteuse ont pour point commun son écriture. Paroles, musique, elle compose quasiment tous ses morceaux et chaque disque est une véritable lecture de son journal intime avec son propre univers. Taylor Swift, passionnée de littérature, se livre sur sa vie et ses émotions sans aucun filtre mais avec énormément de figures de style. Et c'est ça aussi qui fait d'elle une chanteuse à part entière. Taylor Swift est une véritable parolière. Soutenue par ses fans et reconnue du milieu country, elle a 16 ans quand elle part à la conquête des US. Elle va enchaîner les radios, les télés et faire les premières parties de concerts d'artistes de country particulièrement reconnus. Son talent et son investissement paient. En 2007, elle est nommée aux American Music Awards et aussi aux Grammys. Si elle avait déjà reçu des récompenses dans des cérémonies centrées sur la musique country, là, on passe clairement un gap. Les American Music Awards et les Grammys sont un peu les Oscars de la musique et accordent des prix aux artistes les plus influents de la planète. C'est donc à 17 ans que la jeune Taylor se voit nommée dans la catégorie meilleure artiste féminine préférée de la country. Elle loupe le trophée de peu, mais le gagnera l'année suivante. Et des trophées, elle en remportera tellement par la suite qu'elle battra même le record détenu par un certain Michael Jackson. Mais revenons en 2008. La fusée Taylor Swift est lancée. Elle sort son deuxième album intitulé Fearless et c'est un véritable carton, tout comme sa tournée de concert. L'un de ses morceaux, Love Story, devient même le deuxième single le plus vendu de tous les temps derrière Thriller de Michael Jackson. Et oui, encore lui. La jeune chanteuse enchaîne les records et se rapproche du toit du monde. Artiste de l'année, album de l'année, là aussi, Taylor rafle toutes les récompenses. Mais il y en a une qui lui laissera pourtant un goût particulièrement amer.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor, présenté par Audrey.
2009, nous sommes aux MTV Awards, encore une très grande cérémonie qui récompense les plus grands artistes et c'est une nouvelle victoire pour Taylor Swift. À 19 ans, elle monte sur scène pour récupérer le trophée de la meilleure vidéo féminine de l'année. Alors que la jeune femme commence son discours de remerciement, émue et particulièrement fière d'elle, déboule sur scène le rappeur Kanye West. Alors pour resituer, c'est le même Kanye West qui se fait aujourd'hui appeler Ye, qui enchaîne les sorties pro-Trump et antisémites et qui vend des t-shirts floqués d'une énorme croix gammée sur son site internet. Voilà. Ce même Kanye West débarque donc sur scène et s'ensuit un moment ultra gênant où la star du hip-hop va arracher le micro des mains de Taylor Swift et déclarer sans vergogne que, bon, ok Taylor t'as gagné, mais c'est bien la chanteuse Beyoncé qui a réalisé la meilleure vidéo de tous les temps.
I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
Taylor Swift restera comme toute la salle choquée et scotchée. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'elle ressortira de scène, sans un mot de plus. Malheureusement, ce ne sera pas la première ni la dernière fois que Taylor Swift aura affaire à des crétins, comme dirait Barack Obama. Au moment de l'affaire Kanye West, Taylor Swift sort son troisième album. Et comme à son habitude maintenant, c'est un carton plein, tout comme le suivant, et celui d'après, celui d'après. Les ventes s'envolent, les records tombent, les concerts sont complets et rapportent un max, bref, une success story classique pour la chanteuse. Mais en 2014, la musique de Taylor Swift va prendre un virage qui changera à jamais l'influence et la vie de la chanteuse.
Shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna break, 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 break. And the fake is gonna fake, 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 fake.
la country, place à la pop. La chanteuse garde toujours la même formule. Elle se livre dans ses chansons, comme dans son journal intime. Ses fans diront d'ailleurs adorer cette espèce de proximité. Ils ont l'impression d'enfin trouver quelqu'un qui arrive à poser des mots sur leurs émotions. Et ses fans, Taylor les chouchoute. Et ça, dès ses débuts sur MySpace.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
L'artiste a compris l'importance de créer du lien avec ses fans. Lors des sorties de ses albums, par exemple, elle organise même des « secret sessions », des sessions d'écoute secrètes. Ces temps réservés aux fans triés sur le volet ont pour objectif de faire écouter en avant-première son nouveau disque. Et pour ça, la star leur donne rendez-vous chez elle, leur prépare des cookies et échange avec eux en mode pilou-pilou dans son salon. C'est sûr qu'avec Mariah Carey, ce serait pas la même.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor.
Tout va donc pour le mieux sur la planète Taylor Swift. Son dernier album se vend à plus de 100 millions d'exemplaires, il est salué par la critique, ses singles dépassent le milliard d'écoutes sur les plateformes de streaming et sa tournée de concerts est un triomphe. Mais ce serait trop facile. Côté perso, la vie amoureuse de la jeune femme est épiée, décortiquée et commentée par le monde entier. Tout le monde a visiblement son mot à dire sur les amours de Taylor Swift. Et ce qu'on peut dire, c'est que les médias, toutes formes confondues, s'en donnent à cœur joie, mais jamais dans le très bon sens du terme. La chanteuse doit se justifier et répondre aux questions souvent douteuses et franchement déplacées de certains journalistes. Pour exemple, cette présentatrice de la chaîne américaine E! Entertainment lors des Grammy Awards de 2015, qui annonce à la chanteuse en toute décontraction qu'en plus de repartir avec des trophées, elle va sans doute aussi repartir avec tout un tas de mecs. Ce à quoi Taylor Swift répondra avec colère qu'elle rentrera seule chez elle en fait.
You're gonna walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. I'm not gonna walk home with any men tonight.
Dans le même genre, dans l'émission de Hélène Dégénérès, ultra populaire outre-Atlantique, où la présentatrice à la limite du harcèlement pousse la chanteuse à confirmer une relation passée avec l'acteur Zac Efron. Taylor Swift réfute, Dégénérès insiste en mode « Mais enfin, mais pourquoi tu le nies ? À vous ? Allez, à vous ! »
You were here with your boyfriend Zac Efron last time. How's he doing ?
We actually never dated.
Yes, you did.
We didn't date.
Yes, you did. Why do you deny it ?
Because we didn't.
Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan d'harcèlement médiatique qu'a subi Taylor Swift. Elle le dit elle-même, pendant des années, les médias l'ont traitée de serial dateuse hystérique. Et côté public, vous vous doutez bien que les mots étaient beaucoup moins tendres. Salope, traînée, voilà le genre de commentaires fleuris adressés aujourd'hui encore à la chanteuse. Mais là encore, c'est par la musique qu'elle va exorciser sa colère et sa peine. De toutes ces insultes sexistes, elle sortira même un morceau intitulé « Slut ». Sexiste ? Vous avez dit sexiste ? Là encore, c'est aussi ça le problème. Si Taylor était né garçon, pensez-vous sincèrement que le nombre de ses ex-petites amies aurait été un problème ? En tout cas pour elle, c'est sûr que non. Elle prend même en exemple ses collègues chanteurs comme Ed Sheeran ou Bruno Mars, qui eux aussi ont écrit sur leurs ex sans qu'il n'y ait pour autant aucune réflexion de journaliste à ce sujet. Mais Taylor Swift sature de tout ça. Elle va au fil des années s'émanciper de cette image lisse et polissée imposée par les maisons de disques et les conseillers en com. La jeune femme grandit comme son pouvoir et sa force de frappe. La preuve, en 2019, quand son label Big Machine Records est alors racheté par un manager appelé Scooter Braun. Scooter Braun est une figure éminente de l'industrie musicale, mais il est aussi considéré comme une crapule, sans foi ni loi. Et cerise sur le gâteau, il s'avère que le gars est aussi un proche collaborateur de Kanye West. Pour la chanteuse, c'est, et je cite, « le pire scénario imaginable ». Signée sur un autre label, Taylor Swift se lance alors dans une bataille juridique pour tenter de récupérer les droits de ses chansons, alors aux mains de Scooter Braun. Voyant la lourdeur de la procédure et la difficulté d'obtenir gain de cause avec ces conditions, la chanteuse décide tout bonnement de réenregistrer ses 6 premiers albums. Ces nouvelles versions sont fondamentalement les mêmes que les premières, à quelques arrangements et chansons près. Mais la différence avec les autres, c'est que ces nouveaux enregistrements sont validés et mis en avant par les médias et surtout par les fans. Ces nouvelles versions sont appelées les Taylor's versions. Et en tant que fan de Taylor Swift, aka en tant que Swifties, il est juste impensable d'avoir ou d'écouter les anciennes. Maintenant, ce sont les versions de Taylor ou rien. Et oui, c'est ça aussi qui fait la force de sa communauté de fans. En plus d'être investis moralement et financièrement, ils sont solidaires et prêchent la bonne parole de leur idole. Et ne croyez pas qu'on parle d'un petit groupe d'ultra un peu isolé. Taylor Swift sur Instagram, c'est 282 millions de followers. renouveau du vinyle, pression sur les plateformes de streaming, influence sur l'économie d'une ville ou même d'un pays, les Swifties sont même redoutés par tous ceux qui auraient l'audace de se dresser contre leur icône. Mais ces Swifties, justement, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et pourquoi ils aiment tant Taylor Swift? J'ai tenté de répondre à ces questions en allant directement à la rencontre de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Mona, elle a 15 ans, elle collectionne les goodies de la star et est capable de traduire toutes ses chansons. Elle a même eu la chance d'assister à l'un de ses énormes shows lors de sa dernière tournée, le Eras Tour, c'est dire si elle connaît le sujet. Ma première question était portée sur le pourquoi. Pourquoi on aime Taylor Swift?
Je pense que le fait qu'il y ait plein de styles différents, c'est-à-dire que vu que chaque album est un univers plutôt différent, ça peut plaire beaucoup de personnes. Et aussi, du coup, les paroles en fait, qui sont inspirées de sa propre vie, de propres situations qu'elle a vécues et que certaines autres personnes ont vécues aussi, donc elles peuvent se rattacher à ces chansons-là, quoi. Mais il y a certaines personnes, oui, qui, quand on commençait à l'écouter, elle a sorti son premier album à 16 ans et qui, eux aussi, avaient 15-16 ans à ce moment-là. Du coup, ils ont un peu grandi avec elle et dans les situations qu'elle a vécues et qu'ils ont vécues au même moment, du coup.
Ensuite, je me suis interrogée sur le profil type des Swifties. Jeunes, vieux, garçons, filles, en fait, on parle de qui?
Je dirais que ça dépend des pays, parce que par exemple, du coup, à la base, elle était plus connue aux États-Unis. Donc je pense que là-bas, il y a autant des jeunes que des personnes un peu plus âgées, entre guillemets, enfin, voilà, des gens aussi de son âge, etc., des adultes, quoi, parce que, à la base, elle faisait de la country, et du coup, eux, ils écoutent beaucoup ça là-bas, du coup, ils ont commencé à écouter tôt, donc ils écoutent toujours, enfin, voilà. Mais il y a aussi des plus jeunes, parce que du coup, c'est un peu... ça se propage dans les générations, en fait. Si les parents écoutent, l'enfant écoute aussi, du coup. Et voilà, après... En France, il y a un peu moins d'adultes, j'ai l'impression. Enfin, je pense que c'est plutôt les... J'ai l'impression que c'est plus les jeunes. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de filles que de garçons, même si on voit de plus en plus de garçons écouter. Mais en général, les garçons, la pop, c'est pas trop leur truc à la base. Donc voilà, mais il y en a quand même.
Et oui, si aujourd'hui la France entière connaît Taylor Swift, elle a quand même mis du temps à l'accepter en tant que pop star. Sans doute la faute à ses débuts dans la country, qui n'est pas vraiment notre style de prédilection, mais aussi au fait que pour la France, qui dit chanteuse pop, dit souvent hyper-sexualisation. Attention, chacun fait ce qui lui plaît. Là n'est pas la question. Mais le cliché de la chanteuse pop en France s'apparente plus à des Britney, Lady Gaga ou Beyoncé, très exubérantes et sexualisées, qu'à des profils considérés comme plus sages, comme celui de Taylor Swift. Mais revenons aux Swifties. Je me suis demandé en quoi consistait le statut de fan de Taylor Swift. Qu'est-ce qui fait de nous un ou une Swiftie? Et est-ce que tous les fans se ressemblent vraiment?
Être fan, c'est-à-dire écouter beaucoup de la musique, mais aussi connaître sa vie en dehors. C'est-à-dire suivre sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans sa vie, etc. Et puis chercher un peu chaque détail des photos de quand elle sort, des trucs comme ça, même si c'est pas très... Voilà quoi, enfin, ça gâche un peu sa vie privée, mais on aime bien voir de temps en temps un peu ce qu'elle fait, quoi. Il y en a qui sont un peu dans l'extrême parfois, mais il y en a même qui vont un peu loin, je trouve. Je pense qu'il y a plusieurs degrés, mais je pense qu'il y a plusieurs degrés parce que il y en a qui vont vraiment très loin et là du coup c'est un peu grave, mais il y en a qui restent juste dans le fait d'écouter la musique et suivre un peu ce qu'elle fait dans sa vie, quoi.
Et oui, les fans excessifs, toutes les stars y ont été confrontées à un moment ou à un autre. Après, est-ce que toutes ont eu droit à des intrusions à leur domicile? Ça, c'est pas sûr. De l'amour à la haine, malheureusement, il n'y a qu'un pas. Et quand on a le succès et la popularité de Taylor Swift, la moindre déclaration fait débat. D'autant plus quand celle-ci peut influencer la politique mondiale. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. On en a parlé durant l'émission, l'image de Taylor Swift a radicalement changé au fil des années. Adolescente, elle était le stéréotype parfait de la petite américaine, blonde et sage, un véritable symbole pour les électeurs républicains. Pendant des années, la chanteuse a refusé de se prononcer sur la politique du pays et ses propres convictions. Tous les conservateurs espéraient alors secrètement qu'elle roule pour le camp républicain et diffuse la bonne parole auprès de ses jeunes et très nombreux fans en mesure de voter. Mais patatras! Comme on peut le voir dans le documentaire Netflix Miss Americana, Taylor Swift décide, contre l'avis de son équipe, d'exprimer ses opinions politiques. Déjà en 2018, elle a clairement pris position lors des élections mi-mandat en Pennsylvanie contre une candidate qui voulait limiter les droits à l'avortement. Elle s'engage aussi ouvertement pour défendre les droits de la communauté LGBTQIA+, que ce soit grâce à sa musique, mais aussi avec les nombreux dons faits auprès des assos. Donc autant vous dire que les républicains ont vite compris qu'ils ne pourraient jamais s'appuyer sur la chanteuse pour influencer le vote conservateur. Mais le coup de grâce vient en 2020, quand la chanteuse décide publiquement d'annoncer son soutien au candidat de l'époque, le démocrate Joe Biden. Face à lui, c'est un certain Donald Trump. Déjà élu en 2017, l'actuel président des États-Unis était à la base assez fan de Taylor Swift. Entendez, la communication de Trump consistait à publier des vidéos de lui en se déhanchant sur les musiques de Taylor Swift, histoire de paraître un peu cool et de séduire le jeune électorat. Mais bizarrement, après les prises de position de la chanteuse, on n'en a plus vu du tout de ces petites vidéos. En tout cas, lors de la dernière campagne présidentielle américaine, le camp Trump n'a cessé de trembler face à la puissance de frappe de l'artiste. Ouvertement démocrate, elle soutient officiellement les candidats Joe Biden puis Kamala Harris. Et même si elle ne demande pas directement à ses abonnés de voter pour eux, cette prise de position aurait pu tout changer. Parce qu'il faut savoir qu'avant les élections, un sondage indiquait quand même que 20%, oui 20% des Américains feraient le même choix de vote que l'artiste. C'est énorme, mais pas suffisant. Malgré toute la bonne volonté de Taylor et des Swifties, Donald Trump est réélu président des États-Unis le 5 novembre 2024. Et si, revenons à Taylor. Poète, chanteuse, féministe, icône, symbole, hors norme, nombreux sont les termes pour la désigner. Aujourd'hui, j'ai tenté de vous brosser le portrait d'un phénomène qui mériterait encore plusieurs émissions, tant son profil est fascinant. Mais la grille des programmes étant déjà bien chargée, je laisse ma place aux autres. Et en attendant de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission qui sera pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Aïe, oh!
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.